franceinter.fr.
Bonsoir Michel Gourdin.
Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous.
Avec la dernière journée des championnats du monde d'athlétisme, avec la consécration de Johan Diniz, champion du monde du 50 km marche.
Ah, c'est une performance exceptionnelle qu'a réalisée Johan Diniz, sacré champion du monde pour la première fois, sur la plus longue et sans doute la plus ingrate des disciplines de l'athlétisme, comme à Rio l'année dernière. Il s'est échappé après 4 km seulement de course, mais contrairement aux Jeux, où il avait subi une terrible défaillance en se vidant littéralement sur le parcours, en refusant d'abandonner, allant jusqu'à mettre en danger son intégrité physique. Ce matin, il est allé au bout. Le calvaire de Rio s'est transformé aujourd'hui en matin bonheur. Johan Diniz.
Oui, je l'ai. J'ai du mal à m'en rendre compte. Quand je suis parti au quatrième, je me suis dit, c'est pas possible. Ça y est, je pars encore, quoi. Mais après, on regarde la physionomie de la course. On n'avançait pas. Puis j'ai voulu prendre de l'avance au début pour m'arrêter aux toilettes, faire ça bien pour un coup. Et puis après, je suis revenu tout de suite dans le groupe de tête et puis je voyais que ça se regardait, donc j'ai pris mon rythme. Et puis après, je me suis dit, Johan, ça va être long, encore une fois, ça va être long. J'avais un carton rouge, il restait 20 km. Donc j'ai dit, aujourd'hui, je ne peux pas gâcher ce moment, donc il faut que j'arrive à consolider ma technique. Il y a des jours... où tout semble facile, ouais, il y a tout qui semble facile, des jours comme ça, où on a un sentiment de plénitude, en fait, puis voilà.
Et puis voilà, comme si tout était simple. Bonsoir Franck Ballanger, bonsoir Vincent Pellegrini, vous êtes en direct de Londres.
Bonsoir Michel.
Bonsoir Bimi.
Alors Franck, il n'y a pas de mots assez forts pour décrire la performance réalisée par le facteur de Reims ce matin.
Vous parliez de Rio, de sa mésaventure de l'année passée. Si vous avez assisté aux deux, il y a un an à Rio et aujourd'hui à Londres, eh bien c'est saisissant. Aujourd'hui, malgré ses 39 ans, il était heureux comme un gamin, Johan Diniz, en franchissant la ligne d'arrivée. Ça faisait vraiment plaisir à voir, à tel point que même les supporters anglais étaient ravis pour lui. Ils l'ont félicité, ils l'ont presque tous embrassé lorsqu'il s'est présenté vers les journalistes. Johan Diniz a réalisé son rêve. L'année passée, il l'avait atteint aussi. Il voulait absolument terminer aux Jeux Olympiques. Il avait même terminé finaliste, 8e, malgré cette énorme défaillance dont vous aviez parlé. Il s'était quand même relevé à un moment en demandant à l'un de ses entraîneurs de quel côté il devait courir. Donc voilà, il était vraiment très très mal aujourd'hui. Et ben c'était l'inverse. Il était très bien, un petit peu comme lorsqu'il était devenu champion d'Europe en 2006 à Göteborg. On va quand même rappeler le palmarès du garçon. Trois titres de champion d'Europe, vice-champion du monde en 2007, recordman du monde du 50 km. Il ne lui manque plus qu'un titre olympique.
Et ce sera peut-être pour quand alors ? Il n'a pas renoncé à poursuivre sa carrière, Franck.
Alors avant la course, il nous avait dit « ce sera vraisemblablement mon dernier 50 km ». Après la course, une fois qu'il a eu sa médaille autour du cou, il a dit « finalement peut-être que je vais continuer, il me manque une, il me manque l'or olympique ». Les prochains Jeux, c'est dans 3 ans, ce sera à Tokyo, j'aurai 42 ans, donc pourquoi pas. Cela semble loin, hein. Son entraîneur, le responsable pardon, de la marche en France, Patrick Pascal Chira, a quand même lui estimé que Johan Diniz ferait mieux d'arrêter aujourd'hui sur un titre. Ce serait fantastique. Visiblement, le champion n'est pas tout à fait décidé à stopper sa carrière.
Oui, parce que Paris 2024, c'est encore beaucoup, beaucoup plus loin. Vincent Pellegrini, encore des émotions à attendre ce soir avec la dernière session. Encore une possibilité de médaille tricolore avec Mélina Robert-Michon.
Ouais, elle a souvent prouvé par le passé qu'elle savait se transcender dans les grands rendez-vous. Ça a été le cas à Rio. Elle a décroché la médaille d'argent, la grenobloise qui avait également terminé deuxième au championnat du monde à Moscou il y a 4 ans. Donc Mélina Robert-Michon qui a réussi de très belles qualifications. Le titre semble promis à la Croate Sandra Perković, la championne olympique de Rio. Mais derrière, c'est assez ouvert pour les médailles. Il y aura 7 finales au programme ce soir et en clôture les 2 relais, 4 fois 400 mètres, dames puis messieurs. Les 2 relais français sont engagés. Ce sera difficile d'aller chercher une médaille. Ce sont les relais américains qui seront les grands favoris de ces 2 4x400.
Alors Vincent, c'est déjà l'heure du bilan avant les dernières finales que vous évoquiez. 4 médailles, dont 3 titres pour la France. 2017 est un grand cru.
Oui, jamais l'athlétisme français n'avait conquis 3 médailles d'or à des mondiaux. C'est donc une première. Il faut rappeler également les 4e places de Mayedine Mekissi dans le 3000 steep, de Garfield Darien dans le 110 mètres haies, de Quentin Bigot au marteau, hein, tout près du podium. Et puis, bah, et ça a été également cet athlétisme français. Il a été porté par ces deux figures de proue désormais, hein, Pierre-Ambroise Boss et Kevin Mayer, 25 ans. On va voir comment ils vont gérer ce titre mondial. Mais on risque d'entendre parler d'eux jusqu'au JO de Tokyo en 2020 et pourquoi pas jusqu'en 2024 à Paris. On rappelle qu'à Rio, l'athlétisme français avait récolté 6 médailles, mais pas de médaille d'or, seulement 2 médailles d'argent et 4 de bronze.
Franck Ballanger, je reviens vers vous pour évoquer les images de ces championnats. Il y en a beaucoup, bien sûr, mais la plus spectaculaire, c'est la sortie par la petite porte du roi Usain Bolt.
Ah, je suis pas tout à fait d'accord, mais effectivement, la sortie de Usain Bolt, il était venu ici pour dire au revoir, hein. Il a connu une saison très très compliquée avec notamment la mort de son meilleur ami Jermaine Mason, qui s'est tué dans un accident de moto en Jamaïque en avril dernier. Il avait été très marqué, Usain Bolt, par ce décès. Il était allé jusqu'à creuser la tombe au sens propre de son ami avant de porter son cercueil. Pendant 3 semaines, il avait refusé de s'entraîner. Résultat, ajoutez à cela quelques maux de dos, quelques blessures au mollet, vous avez un athlète de 30 ans vieillissant, insuffisamment préparé. Donc il a essayé sur le 100 mètres, ça a donné une médaille de bronze. Sur le relais, ça a donné un claquage derrière la cuisse et une fin en eau de boudin. Mais honnêtement, ce qu'il faut retenir d'Usain Bolt, ce n'est certainement pas ce dernier tour de piste ici à Londres, plutôt son incroyable carrière. C'est 11 médailles d'or mondiales, c'est 8 titres olympiques, c'est record du monde sur le 100 mètres, sur le 200 mètres, sur le relais 4 fois 100 mètres. Usain Bolt était peut-être tout simplement venu ici à Londres pour dire adieu à son public. Hier, on a eu l'impression, avant même la finale du relais 4 fois 100 mètres, que s'il l'avait pu, il se serait mis à la sortie de la tribune pour remercier, pour embrasser tous les spectateurs du stade olympique. C'était sa tournée d'adieu. Ça a mal tourné.
Franck, les 3 médailles d'or qu'aura porté habituellement Usain Bolt plaçaient toujours la Jamaïque en bonne place au bilan. Mais là, c'est toute la Jamaïque qui a presque disparu des sprints. Hommes et femmes, sur les haies, sur le plat. Et puis dans le même temps, gros retour aussi des États-Unis présents cette année, même sur les longues distances.
Alors du côté des médailles, il y a Bolt sur le 100 mètres, il y a Omar McLeod, champion olympique sur le 110 mètres haies. Chez les filles, Elaine Thompson était la grande favorite, elle était malade, elle n'est pas montée sur le podium. C'est vrai que le bilan comptable des Jamaïcains n'est pas très bon. On peut quand même tempérer ça en disant que justement Elaine Thompson était malade et que en plus ceux qui se sont qualifiés pour des finales étaient très jeunes. Donc voilà, des promesses quand même du côté de l'équipe jamaïcaine, mais vous l'avez dit, les grands triomphateurs sur le sprint dans ces championnats du monde auront été les Américains, emmenés par Justin Gatlin, 35 ans. Ce n'est pas exactement un perdreau de l'année. Suspendu 4 ans ou presque pour dopage, Justin Gatlin est le nouveau champion du monde du 100 mètres sur l'arène des courses. Et croyez-moi, hein, on a pu l'entendre, on a pu le voir dans les travées du stade olympique. Cela n'a fait plaisir à personne, à aucun spectateur, et pas non plus aux gens de la Fédération internationale qui... Ben voilà, avant Bolt avait eu droit à Gatlin et après Bolt ont encore droit à Gatlin. Pas forcément génial pour l'image de ce sport, en tout cas pas celle qu'ils veulent véhiculer.
Merci Franck Ballanger, merci Vincent Pellegrini en direct de Londres. Et les prochains championnats du monde d'athlétisme, c'est dans 2 ans à Doha au Qatar.
Et puis c'est le deuxième événement sportif de la journée, hein. Les débuts très attendus de Neymar avec le Paris Saint-Germain à Guingamp ce soir, Michel.
Frédéric, le monde entier a les yeux braqués sur le stade du Roudourou de Guingamp pour la 2e journée du championnat. C'est en Bretagne, dans l'un des plus petits stades de la Ligue 1, que la star brésilienne va faire ses grands débuts. Bonsoir Christophe Delacroix, vous êtes en direct du stade du Roudourou. Vous n'êtes pas le seul, on est venu du monde entier pour assister au début de Neymar. Comme les chiffres du transfert du Brésilien, tout est dans la démesure ce soir.
Ah oui, Michel, n'ayons pas peur, ce soir il s'agit de la première des 38 représentations du PSG Circus. Après Neymar et son certificat, Neymar au parc, Neymar et ses 2 jours de liberté à Saint-Tropez. Donc voici, vous l'avez dit, Neymar au Roudourou. Ici on est à Guingamp, un peu plus de 7000 habitants, 18 500 spectateurs. Ce soir c'est un nouveau record, en 3 jours d'ailleurs toutes les places sont parties en même temps. Vous me direz que 10 000 abonnés, c'est pas très compliqué. Alors à titre de comparaison, Neymar à lui tout seul, eh bien il a vendu déjà 12 000 maillots floqués à son nom lors de son arrivée. La première de la star brésilienne, eh bien, elle est très attendue. Les débuts du numéro 10 du PSG vont être diffusés en direct dans 183 pays. Faute de place, les journalistes américains, japonais ou coréens devront commenter en studio. TV Globo et une cohorte de médias brésiliens, eux, vont découvrir les charmes de la Bretagne, tout comme des Espagnols, des Anglais ou des Allemands. La star, elle, eh bien, elle est à Saint-Brieuc avec ses coéquipiers. Le Novotel est devenu l'endroit très prisé et très surveillé. Un barriérage avait été installé tout au long de l'établissement. La star a pris ses quartiers au deuxième étage. Elle n'a pas mis, du moins à notre connaissance, le nez dehors. Le bus du PSG est attendu d'ici quelques minutes. C'est la famille de Neymar, ses parents, qui viennent d'arriver pour l'instant dans le Roudourou. Quant à Guingamp, eh bien, pour l'instant, dans le cœur du stade, comme d'ailleurs tout autour, il n'y avait rien d'extravagant. D'ailleurs, ce dimanche, c'était bien difficile de se faire servir sur les coups de 14h. Le PSG, en tout cas, côté terrain, lui, bouillonne. Neymar, semble-t-il, est prêt à écouter son entraîneur et on pense qu'il va être aligné sur le côté gauche, normalement, à la place de Pastore.
Alors, un homme a une grosse responsabilité ce soir, c'est Jordan Ikoko. Le défenseur breton va être chargé de marquer Neymar et officiellement, il n'a pas peur.
C'est un joueur certes différent, mais ça reste un mec de foot, donc pas se prendre la tête, c'est le plaisir avant tout. Il n'y a pas y a aucun plan contre Neymar. C'est pas un match contre Neymar, c'est contre le PSG. Donc il y a d'autres 10 joueurs qui sont aussi talentueux. Donc c'est Guingamp contre PSG, non pas Guingamp Neymar. Faut pas avoir peur et c'est que des pressions positives. Hein. C'est chouette, surtout que moi je regarde Barcelone souvent en Ligue des Champions et j'étais pas fan, mais j'aimais bien le joueur et donc c'est vrai que c'est toujours agréable de voir des joueurs dans le championnat de France comme ça et ça va faire du bien à tout le monde, au public aussi, c'est très agréable.
Christophe Delacroix, ce match c'est David contre Goliath, il faudra sans doute un petit peu plus que la potion magique d'Astérix pour permettre aux Bretons de résister.
Oui, mais nous sommes bien devant le champion des tribunes. La saison passée, l'équipe d'Unai Emery avait été tout simplement piégée sur deux contres et s'était inclinée sur le score de 2-1. Guingamp a bien débuté à Metz sur le score de 3-1. Et puis sur notre table, en arrivant, eh bien, on avait une photo avec 7 joueurs de dos à côté d'Amenir, face à un horizon gris menaçant. Et puis il y avait ce message, face au talent d'un homme, les valeurs du collectif. J'ai envie de dire que ça résume très bien la soirée qui se présente.
Merci Christophe Delacroix, le coup d'envoi de ce Guingamp. En PSG, c'est à 21h.
Et avant ce choc à Guingamp, on jouait cet après-midi deux autres rencontres en Ligue 1.
Et oui, en début d'après-midi, pour fêter le retour de Strasbourg en Ligue 1, les spectateurs de la Méno ont eu le droit à un succès de leur favori 3-0 sur Lille. Une rencontre au scénario absolument incroyable. Jordan Abecassis, Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Lille, a encore justifié son surnom d'El Loco, en français, le fou.
Il se souviendra certainement longtemps de ce 13 août 2017. Marcelo Bielsa, au terme d'une rencontre au scénario surréaliste, El Loco ne s'attendait probablement pas à vivre un tel cauchemar à Strasbourg. Il faut dire que les blessures de Mendes et Malcuit au quart d'heure de jeu ne l'ont sans doute pas aidé. L'incroyable raté de Nicolas Depréville, seul face au but, pas beaucoup non plus. Étonnant, comme la décision de sortir Balotouré avant la pause. En 45 minutes, c'en était déjà trop pour le LOSC. Bousculé par une formation alsacienne au courage immense, les nordistes perdaient ensuite leur gardien, auteur d'un geste d'humeur, Mike Maignan, laisser son équipe à 10. Depréville et Amadou troquaient alors leur fonction de joueur de champ pour le cage lilloise. Les trois changements ayant déjà été effectués, il en fallait pas plus à Jonas Martin pour ouvrir le score. Deux autres buts inscrits par Liénard et Grimm anéantissent les derniers espoirs des Dogs. 3-0, Marcelo Bielsa et Lille ont failli dans presque tous les compartiments du jeu. Après-midi à oublier, donc après-midi rêvé. En revanche, pour le Racing, 9 ans après son dernier match en Ligue 1, la Méno ne pouvait pas espérer mieux. Conquérant, soudé, les hommes de Thierry Loret offrent donc un cadeau que n'est pas près d'oublier le public alsacien.
Et puis il y a quelques minutes, Monaco s'impose à Dijon, 4 buts à 1, premier triplé de la saison pour Falcao. Mbappé n'était pas titulaire et il n'est même pas entré en jeu. Au classement de cette Ligue 1 et avant la dernière rencontre de ce soir, Lyon, Marseille et Monaco sont en tête avec 2 victoires en 2 matchs. Un mot en Angleterre, Manchester United a gagné 4-0 face à West Ham, but de Martial et Pogba entre autres.
Et pour finir, Michel, du rugby au féminin avec la Coupe du Monde, France-Australie ce soir.
Et confirmé, ce sera l'objectif des Françaises, confirmer leur grosse victoire face aux Japonaises, du premier match, confirmer leurs ambitions face à des Australiennes qui, c'est vrai, n'ont pas la même valeur et la même réputation que leurs homologues masculins. En tout cas, pas le droit à l'erreur pour les Bleus. Seul le premier du groupe est qualifié pour les demi-finales. Il faudra donc d'abord passer l'écueil australien ce soir et jouer ensuite cette qualification. Ce sera mercredi face à l'Irlande. Les Français partent favoris de ce soir. Ce sera pour Patricia Carica-Bourou, pilier tricolore, une opposition de haut niveau.
Je sais que c'est une grosse nation, qu'elles sont denses, Ça joue vite, fort. Elles sont très costauds et elles jouent bien devant. Il y a des cannes derrière, donc je pense que ça va piquer un petit peu dimanche. Et je pense qu'on a les capacités de maîtriser le match et de les gagner. Il n'y a pas le droit à l'erreur si on veut gagner cette compétition. Donc voilà, à nous de mettre les ingrédients dont il y a besoin pour aller jusqu'au bout.
Et ce France-Australie, c'est à 20h45 à Dublin. Résultat cet après-midi dans cette Coupe du Monde. Et un nouveau record, la Nouvelle-Zélande a battu Hong Kong 121-0. 19 essais, ça fait mal aux cheveux.
Ça fait vraiment très mal. Merci Michel Gourdin pour le journal des sports.